Donc bienvenue dans notre école des métiers du coaching et de l'accompagnement à l'IFOD. Formons au métier de coach et à des compétences de coach pour des cibles différentes. Ce soir, j'ai le plaisir d'introduire le sujet des pratiques narratives avec Magali, Philippe et Henri qui vont se présenter et qui vont surtout présenter notre démarche d'accompagnement à travers les pratiques narratives. Et à travers, ce qu'on pourrait dire, c'est retrouver du pouvoir. C'est une belle ambition, mais c'est aussi l'idée de ces modalités d'accompagnement, à travers justement l'accompagnement sur des situations complexes, retrouver du pouvoir sur sa vie ou de l'initiative sur sa vie. Donc voilà, et je passe le relais à Magali.
Donc, d'abord, quand on entend pratique narrative, on entend le mot narrer, narrative. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire. Donc, notre histoire, elle a commencé il y a à peu près un an et demi, quand Isabelle Laplante et Nicolas Debert, qui sont avec nous dans notre club de vie, on va dire, quand ils nous ont demandé à donc, Philippe, Henri et moi-même de reprendre le flambeau des pratiques narratives. Donc, il y a un an et demi, mais en fait, quand on y pense, avec Henri et Philippe, il y a plus d'un an et demi qu'elle a commencé cette histoire. Il y a à peu près 10 ans, je dirais. Alors, je ne savais plus bien où on s'était rencontrés. Est-ce qu'on s'est rencontrés tous les trois directement en pratique narrative, en formation de pratique narrative, ou alors si on s'est rencontrés en supervision, ou si... Enfin, bon, il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et on avait, c'est sûr, envie de faire des choses ensemble. Donc dans cette aventure de faire des choses ensemble, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Il y a Emmanuel Barre qui n'est pas là, mais elle fait partie de ceux qui reprennent le flambeau des pratiques narratives. Il y a Laurence Marja qui est là avec nous, qui nous soutient. Voilà. Et donc dans cette histoire de faire des choses ensemble, on a fait des choses ensemble. On a fait des groupes de pairs, on a toujours un groupe de pairs, on a monté des équipes de coaching ensemble, on a fait des interventions ensemble, et là, aujourd'hui, eh bien, nous rejoignons l'IFOD en tant que formateur pour transmettre cette pratique. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je crois que je vais m'arrêter avec cette histoire-là, et je vais passer la parole à Philippe qui va nous parler de l'histoire des pratiques narratives.
Alors je serai bref sur l'histoire des pratiques narratives, puisque ce n'est pas forcément l'objet de cette soirée. Les pratiques narratives sont issues des travaux conjoints de deux personnes que vous voyez ici. Ce n'était pas hier, hein, comme vous pouvez le voir. C'est donc Michael White et David Epstone. Michael White et David Epstone qui sont toujours, pour l'un d'entre eux, travailleurs sociaux et puis thérapeutes. L'un en Australie, Michael White, l'autre en Nouvelle-Zélande, David Epstone. Et donc ce sont leurs travaux communs qui ont permis effectivement l'éclosion de cette approche dite narrative. Ils ont beaucoup travaillé au départ avec des familles, avec des couples, avec des individus et surtout beaucoup avec des communautés et des minorités. Et notamment, vous pouvez l'imaginer, en Australie, ils ont beaucoup bossé avec les minorités aborigènes. Michael White est décédé en 2008, mais c'était vraiment le moteur de cette approche narrative, et c'est lui qui a quand même beaucoup développé, beaucoup apporté, beaucoup théorisé cette approche. Et c'est effectivement plutôt sur ses traces que nous nous situons aujourd'hui. C'est l'œuvre le plus représentative de ce mouvement. Alors l'approche narrative, elle a été appliquée à ses débuts au champ de la thérapie familiale. Et ensuite, elle s'est étendue à des traitements extrêmement variés dans le domaine de l'accompagnement. On a traité des traumatismes, des désordres alimentaires, de la schizophrénie, des dépendances. Donc, vous voyez des choses pas très lourdes, on va dire, ou plutôt lourdes. Cette approche deviendra par la suite pratique narrative au fur et à mesure de son investissement dans ce nouveau champ d'action tel que le coaching professionnel, le travail social, l'éducation et de nombreux métiers liés à l'accompagnement. Depuis son introduction en France en 2004, à l'initiative d'Isabelle Laplante et de Nicolas Debert, dont vous avez déjà entendu parler, l'approche narrative connaît un développement extrêmement important, et votre présence ici ce soir confirme le fait qu'elle présente un intérêt important pour pas mal de gens, et notamment, bien évidemment, dans le domaine de l'accompagnement professionnel, grâce à l'enrichissement majeur qu'elle apporte à la démarche tant en individuel qu'en collectif. Vous pourrez être surpris de la carte que vous avez sous les yeux. C'est un point de vue sur le monde qui est un peu différent de celui que nous avons en Occident. Je pense qu'il illustre assez bien, et c'est le monde vu de la Chine, et notamment, effectivement, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande vue de la Chine. Donc c'est un point de vue assez différent d'une autre. Et l'intérêt pour moi de cette approche narrative, c'est que justement c'est une décentration du point de vue qu'on peut avoir à la fois sur le monde, sur la manière de le percevoir, et sur les gens et sur l'accompagnement. Donc c'est une, à mon avis, une assez bonne illustration de ce que peuvent être les pratiques narratives. Les pratiques narratives sont issues d'un mélange, d'un travail assez intéressant. En fait, Michael White, dont vous entendrez déjà beaucoup parler, vous avez déjà peut-être entendu déjà parler et encore plus dans le futur. Michael White, au départ, il a pratiqué, il a essayé, il a fait des choses. Et puis, il a beaucoup pratiqué. Et puis, un jour, il a essayé de trouver un peu de substrat conceptuel à son approche. Et donc, c'est là qu'il a commencé à fréquenter un certain nombre de penseurs, un certain nombre de soutiens dans ce domaine. Et donc, les pratiques narratives sont le croisement d'un certain nombre d'approches, notamment toute l'anthropologie culturelle nord-américaine. Donc, on citera des noms comme Clifford Geertz, Victor Turner et ici Barbara Meyerhoff, qui elle aussi malheureusement est décédée assez jeune, mais a fait tout un travail sur les communautés juives en Amérique du Nord. C'est aussi un croisement avec la psychologie du développement, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il n'est pas très célèbre, mais quelqu'un très important, il s'appelle Lev Vygotsky, qui était un biélorusse du début du siècle dernier, qui a eu une approche en continuité de Piaget, mais un peu décoiffante également. Vous avez toute la philosophie critique française qui a pas mal marqué cet Australien, c'est assez étonnant. Donc vous avez Derrida, vous avez Foucault, vous avez Deleuze, qui ont été revus, interprétés par Michael White et retraduits dans ses approches d'accompagnement. Vous avez ces fondamentales de la théorie littéraire au travers de Jérôme Brunner, qui était un psychologue nord-américain et qui vit toujours. Non, il est mort à 102 ans, il n'y a pas très longtemps. Donc on en reparlera, je pense, de la partie littéraire. Et sans oublier, bien évidemment, les travaux de M. Bateson, que vous connaissez sans doute, qui ont beaucoup inspiré notre ami Michael. Et je n'oublierai pas, bien évidemment, Marcel Proust, qui est une référence fondamentale dans l'approche narrative et qui est un peu notre maître à tous. Une chose importante aussi, juste dans le paysage, c'est qu'il y a une forte influence dans l'approche narrative ce qu'on appelle le constructionnisme social. C'est une manière de voir le monde et une manière de voir l'accompagnement qui est très spécifique, qui a été développée aussi au siècle dernier, avec notamment un certain Kenneth Gergen, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui colorie énormément notre approche, notamment au travers des notions d'identité relationnelle et autres. Alors, je voudrais démarrer cette page par une petite histoire, une anecdote. Une anecdote assez parlante qui, à mon avis, est assez révélatrice de ce dont je vais vous parler. En Australie, vous savez que la colonisation ne s'est pas faite en douceur. Il y a assez rarement des colonisations douces, mais là particulièrement. Donc il y a eu des massacres importants, il y a eu des difficultés relationnelles très fortes entre les populations occidentales et les populations aborigènes. Et donc notamment les populations aborigènes se sont trouvées depuis assez longtemps confrontées à de graves difficultés dans le domaine de l'alcool, dans le domaine de la prostitution, dans le domaine de la misère en général. Et dans les années 80, nous, Blancs, avons eu l'excellente idée d'envoyer un certain nombre de sachants blancs pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire pour se sortir de cette situation. Et dans ces sachants blancs, il y en avait un qui s'appelait Michael White et qui est allé voir donc un certain nombre de tribus aborigènes de l'époque et qui, il y en a eu d'autres sans doute, mais lui a une attitude qui m'a semblé intéressante, qui a consisté à dire à ces gens, mais moi, en m'avant en tant que blanc, vous dire quoi faire, alors que d'abord, je me sens un peu responsable de la situation dans laquelle vous êtes, donc c'est une situation pour moi un peu incommode. Et d'autre part, moi, je suis convaincu que vous avez beaucoup plus de connaissances que moi par rapport à vos besoins, vous avez beaucoup plus de connaissances que moi par rapport à votre culture, vous avez à peu près 40 000 ans de tradition, nous, ça fait quelques milliers d'années, et encore, on se bat sur nos traditions qui ne sont pas cohérentes. Et donc, il leur a demandé, est-ce que par hasard, dans votre expérience de vie, il y a eu des réponses qui ont pu être apportées dans votre culture et vos traditions par rapport à ces situations que vous vivez? Est-ce que vous pourriez me raconter? Est-ce que par hasard, vous auriez des histoires qui seraient des histoires de soutien, des histoires de solutions, des histoires des histoires porteuses d'avenir, plutôt qu'effectivement des histoires de destruction? Et ils étaient dans une logique de destruction. Et cette attitude de Michael White, celle qu'il adopte vis-à-vis des aborigènes, pour moi, elle illustre un des points fondamentaux de l'approche narrative. C'est la notion que c'est, pour un praticien narratif, c'est l'autre qui sait. C'est lui qui est expert de sa vie. C'est l'autre, en parlant de ce qu'il vit, en répondant à notre invitation de nous aider à l'aider, puisqu'il s'agit vraiment de ça, qui va s'aider lui-même. Alors, cette attitude prend forme dans la posture qui est définie ici, la posture décentrée et influente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une posture dite décentrée, c'est-à-dire que c'est le narrateur qui est au centre de la conversation, c'est lui qui est l'expert de sa vie, et c'est le praticien qui apporte de la priorité à ses connaissances et ses compétences. Si le client est au centre, ça veut bien évidemment dire que le praticien doit être décentré, dans une attitude de non-savoir, de curiosité et de perplexité. En pratique narrative, les meilleures questions sont celles dont on est sûr de ne pas savoir la réponse. Une posture aussi qui est influente, c'est une des particularités de l'approche narrative. On ne considère pas qu'on n'est pas influent. Nous sommes influents en tant que praticien narratif. Et pour nous, il s'agit de construire, et c'est pour ça que j'ai introduit cette métaphore de Notre-Dame, il s'agit de construire au moyen de questions, de conjectures et de réflexions, un échafaudage qui permettra à la personne de décrire richement d'autres histoires, des histoires revitalisantes, en la reconnectant à ses aspirations profondes, ses valeurs et ses rêves, qui sont des notions fondamentales en pratique narrative. Une autre notion importante que démontre cette histoire, c'est qu'effectivement, il y a un des postulats importants de l'approche narrative, c'est que le problème, c'est le problème, la personne, c'est la personne, et la personne n'est jamais le problème. En tant qu'être humain, nous sommes généralement convaincus que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont en rapport étroit avec notre structure de personnalité, avec notre identité, avec notre caractère. Nous sommes convaincus souvent qu'ils sont le reflet de notre identité ou de celle des autres. Par exemple, vous entendrez souvent dire des gens « je suis angoissé, je manque terriblement de confiance en moi, je repousse tout à plus tard, je suis incapable de prendre des décisions ». C'est un certain nombre de choses auxquelles je suis confronté. Et dans ces conditions, il est fréquent que les efforts déployés pour résoudre les problèmes aient pour effet de les exacerber. En pratique narrative, le problème n'est certainement pas la personne. Le problème, c'est le problème. Et il n'est absolument pas un reflet de l'identité de la personne, ce qui est un point de vue structurant. Cette approche, en fait, considère effectivement que les problèmes sont situés à l'extérieur des personnes, un peu comme des personnages avec qui elles seraient en interaction contraignante. En effet, pour nous, tout un chacun possède des compétences, des valeurs, des croyances, des engagements, une éthique, qui le rendent capable de réduire l'influence des problèmes sur sa vie, voire de les dissoudre. Donc en pratique narrative, nous responsabilisons les personnes sur leur propre solution, leur permettant de percevoir des alternatives non encore sollicitées. Et un principe fondamental pour permettre cette approche est un principe d'externalisation. Le principe d'externalisation qui est présent dans toutes les conversations narratives. Il s'agit d'une façon assez particulière de s'exprimer qui va permettre d'opérer une distinction entre les problèmes et les personnes. Qui va permettre de focaliser sur la relation entre le problème et la personne. Cela permettra à la personne d'avoir une expérience de son identité distincte du problème, de déconstruire des conclusions identitaires négatives, d'objectiver le problème et de rendre visibles les différentes façons de le résoudre ou de le dissoudre. Et surtout de développer des histoires identitaires alternatives capables de les aider à se libérer de l'influence du problème. Et donc j'ai introduit la notion d'histoire, qui, comme vous pouvez l'imaginer, en pratique narrative, est une notion importante. Et donc je vais passer le micro à Magali pour poursuivre.
Merci. Bon, alors Philippe vous a raconté beaucoup de choses, hein. Donc je vais peut-être redire des choses qu'il a dites déjà, mais déjà je vais vous parler des histoires, encore des histoires. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler en pratique narrative. On va aller dans tout ce qui est la littérature, dans la façon dont fonctionne la littérature. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qui fait une bonne histoire, ce qui fait une histoire. Hein. On va aller chercher quoi ? Des événements, là c'est mes petites croix. On va aller chercher des personnes, on va aller chercher à mettre en place une ligne du temps. Donc on va aller du coup explorer dans le passé, dans le présent, dans le futur. On va faire des allers-retours par rapport à ça. Je vous ai dit, on met en place des personnages. Vous avez vu monsieur, je le prononce mal, Angry, c'est ça? Monsieur Angry, ça peut être un personnage de notre histoire. On va aller en chercher plein des personnages. Qu'est-ce qu'on va chercher aussi? On va chercher un thème et surtout... Henri, on va chercher une intrigue. On va mettre de la tension dans l'histoire pour pouvoir travailler avec nos clients. Parce que quand nos clients ils viennent nous voir, comme disait Philippe, ils viennent nous voir avec des histoires de problèmes en général. Hein. Ils viennent nous voir avec le « je suis trop timide, je suis un mauvais manager, je ne sais pas faire ceci ». Et puis souvent, plus vous essayez de dérouler la plot, et plus vous voyez cette saturation de problèmes qui peuvent même se retrouver dans la vie perso, dans la vie amicale, dans la vie professionnelle, dans la vie... Et c'est vraiment une saturation qui peut être complète. D'où la complexité avec laquelle nous sommes amenés à travailler. Sujet délicat, sujet transcontextuel. et qui, lorsque le client se raconte à nous, on a l'impression effectivement qu'il tire des conclusions identitaires, ce dont tu parlais, assez tournées autour de incapacité, difficulté, anxiété, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où ce thème est tracé, alors tous les autres événements, donc l'histoire de l'incapacité, c'est pas hyper visible, mais vous voyez, dans les petites croix que nous avons faites, le client, il va relier ces petites histoires de « je suis timide », là, et ça va donner l'histoire rouge, c'est-à-dire qu'il ne va sélectionner et retrouver dans ce qui lui arrive, dans son expérience, que les histoires qui vont raconter ces histoires de problèmes, de « je suis timide »,« je suis un mauvais manager », etc., etc. Et ça va être le thème de son histoire. Et les autres petites croix, il ne va pas forcément les voir, ou alors il ne va pas vouloir les voir. Donc toute autre trace qui pourrait raconter d'autres histoires, tout événement qui pourrait raconter d'autres histoires, eh bien, il ne va pas les prendre. Ça ne corrobore pas ce qu'il croit à propos de lui, de ses compétences, de ce qu'il est capable de faire. Non, je suis un mauvais manager. Et d'ailleurs, et alors là, il vous trouve tous les événements qui vont raconter l'histoire d'un mauvais manager. Donc celui où il a réussi à prendre soin de son équipe, celui où il a pris des positions, celui où il a bien réussi à animer sa réunion, tous ces événements qui pourraient raconter une autre histoire, ça c'est volatilisé, c'est oublié, noyé, flouté, tout ce que vous voulez. Or nous, c'est précisément en pratique narrative, là je vois des hochements de tête, là où on va aller travailler. Nous, on va aller chercher tout ce stock d'événements, donc c'est mes autres petites croix là, qui vont permettre aussi de raconter des histoires alternatives. Tout ce stock d'événements qui peut être mis de côté, oublié, mais qui vont pouvoir permettre... Quand on va les agréger ensemble, à travers ce rôle d'influence, c'est là où on va dire « oui, 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 mais là, qu'est-ce que vous me racontez ?» Donc nous, c'est là où on est influent, on va aller chercher d'autres événements pour raconter plutôt une histoire verte. L'histoire rouge, elle existe toujours. Hein. Il y a plein de moments où prendre la parole en public, c'est compliqué. Il y a plein de moments où je n'ai pas réussi à défendre mes équipes. Mais il y a aussi plein d'autres moments où je peux raconter une autre histoire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre là-dessus? Alors, comment on fait peut-être? Comment on s'y prend pour faire tout ça? Je passe le slide d'après. Eh bien, on va tisser. Alors, on n'est pas des tisseurs, mais en même temps, comme c'est exactement dans les récits que nous travaillons, on va aller explorer tout ce qu'on appelle le paysage de l'action et le paysage de l'identité. Là, c'est toute la... Philippe, tu nous parlais de Jérôme Brunner, donc c'est vraiment grâce à Jérôme Brunner qu'on va faire tout cet étayage avec nos clients. Quand je dis nos clients, on parle aussi bien d'individus que d'équipes, que de collectifs, de grands collectifs. Hein. On peut travailler à toutes ces mailles-là. On va aller chercher... Dans l'action, c'est-à-dire dans l'expérience, là où les gens vont aller relever des événements, là où ils vont aller agréger des événements ensemble et donner du sens, on va aller explorer cet événement-là, ces événements-là, et on va aller travailler dans le paysage de l'identité, le paysage de l'identité ou le paysage d'intentionnalité, vous il porte plusieurs noms, de conscience aussi, paysage de conscience, certains disent. C'est là où se trouve ce dont Philippe vous parlait, tout ce qui est espoir, tout ce qui est compétence, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est but. Et on va aller faire converser en fait tout ce paysage de l'action avec ce paysage identitaire pour que la personne voie à travers ses actes d'autres conclusions sur son identité, d'autres engagements qu'elle a pris, d'autres compétences qu'elle a mobilisées et qui vont aller raconter d'autres histoires à propos d'elle, qui vont aussi être vues par d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement du point de vue de la personne. On invite beaucoup de gens aussi bien au sens d'ailleurs symbolique qu'au sens réel. On peut inviter des vraies personnes en plus de notre client pour lui permettre de retravailler d'autres histoires et qu'il voit lui-même d'autres événements de sa vie et qu'il puisse aussi tirer d'autres conclusions identitaires. Peut-être que je m'arrête là, hein, peut-être. Donc pour aller plus loin, un petit peu plus loin, un petit pas japonais plus loin et saisir un peu plus des pratiques narratives, je te laisse la parole, Henri. Hein, un autre aspect.
Oui, on va faire un peu de tissage pour s'orienter dans les pratiques narratives, pour mieux s'y repérer, mieux peut-être en saisir la portée non seulement pratique, mais également éthique ou politique. Je dois développer la notion de pouvoir dont a parlé tout à l'heure Nathalie. Cette notion de pouvoir, c'est le fil d'Ariane, la pelote que l'on peut dérouler, le fil que l'on peut saisir pour relier entre eux plusieurs dimension que l'on vient d'aborder avec Philippe et Magali, la dimension de du problème, la dimension de l'histoire, l'histoire unique ou l'histoire préférée, la dimension de l'externalisation et également celle donc de la posture du praticien. Et on pourra peut-être conclure sur ce que c'est que l'éthique des pratiques narratives. Alors cette notion de pouvoir, elle permet au praticien et à son client, on l'appelle le narrateur, dans ces sortes de dialogues de conscience à conscience, hein, que sont les pratiques narratives, les conversations narratives, elles permettent précisément de cibler les différentes métamorphoses de cette idée de pouvoir. Au premier plan de sa manifestation, c'est quand le client vient nous voir, c'est une histoire d'emprise, hein, l'emprise d'un problème, l'emprise d'une idée fixe. L'emprise d'une idée fixe, une complexion donc, dont on pense qu'elle fait partie de nous-mêmes et qui nous entrave, qui nous empêche, qui est parfois paralysante. Ou bien des traits de caractère dans lesquels nous sommes enfermés, que l'on essentialise et qui se figent effectivement, comme on vient de le rappeler, en une histoire unique, envahissante. Le but donc des conversations narratives, c'est de dénouer cela, de le dissoudre, de le déplier. C'est un agrégat, comment dire, compact de négativité, quelque chose qui est à l'œuvre, à l'intérieur de nous-mêmes, qui est donc bien une prise de pouvoir contre nous-mêmes, sur nous-mêmes, et qui s'exerce à nos dépens. Alors, nommer le problème, l'externaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, le mettre à distance, en faire donc une espèce de personnage, effectivement, comme au théâtre, au cinéma ou dans les romans, l'apprivoiser, le façonner à notre goût, à notre guise, en guetter les trucs, les astuces et les ruses pour les déjouer précisément, ou s'en prémunir. Donc débusquer les moyens de son emprise, c'est un petit peu cela aussi, la question des pratiques narratives. En quelque sorte, donc, c'est reprendre le pouvoir sur quelque chose qui nous a, comment dire, envahi, entravé, empêcher. On peut également aller plus loin, si je retrouve la bonne page, et on va la retrouver. Voilà, nous y sommes. Alors, il est une autre dimension du pouvoir, peut-être plus communément admise, mais peut-être beaucoup moins bien interrogée. C'est ce que, à quoi l'on se soumet. C'est de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre de la morale, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir du lien social. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir un vivre ensemble possible. Donc, notre morale, qui n'est pas une orthodoxie, mais qui fait partie de notre discours, de notre environnement, de notre culture, que Michael White va également interroger à travers également les normes et les assujettissements auxquels nous nous soumettons nous-mêmes. On a fait tout à l'heure, et c'était tout à fait bienvenu, allusion à la façon dont Michael White s'est emparé en anglais pour sortir de son insularité australienne de trois auteurs français notamment, il y en a bien d'autres effectivement, que sont Foucault, Deleuze et Derrida. Et pour moi, c'est tout à fait analogique de ce que sont les pratiques narratives par rapport à ce que l'on attend et ce que l'on fait auprès de ses clients, c'est-à-dire les désenclaver d'une certaine façon, les désarçonner de leur idée fixe. White circule, White est mondialiste d'une certaine façon, il va loin. Il rapporte en France, où nous sommes aujourd'hui, des auteurs français qui sont connus aux États-Unis et moins commentés en France, bizarrement. Ce n'est pas simplement un praticien doué, un praticien efficace, mais de fait, c'est aussi un théoricien aiguisé, dont l'acuité consiste effectivement à exporter ou à importer précisément des concepts qu'il est allé chercher chez Foucault, notamment la notion de pouvoir, pouvoir souverain, pouvoir moderne, qu'on peut résumer à grands traits, sans s'apesantir davantage, le grand siècle de Louis XIV, ses pompes, ses fastes, ses solennités, sa verticalité, un pouvoir plus moderne, on va le dire contemporain, le nôtre, où nous sommes aujourd'hui, qui est plutôt celui de l'horizontalité. Et cette horizontalité, elle a été illustrée de façon très éloquente, un peu inquiétante, par un architecte, Jeremy Bentham, au début du XIXe siècle, si ma mémoire est bonne, dans les prisons qu'il concevait, où le surveillant pouvait à tout moment voir où étaient les pensionnaires. Hein. Aujourd'hui, on va plus loin. Aujourd'hui, on dispose de quoi ? On dispose d'algorithmes, de la reconnaissance faciale, à usage marchand, mais également qui comportent des risques, et ces risques, ça pourrait être précisément un contrôle social, individuel, étendu plus loin. On ne va pas s'apesantir, c'est un risque, il faut le savoir, il faut le connaître, et ces explorations-là font également partie, à nos yeux, en tout cas aux miens, de ce que sont le champ d'application des pratiques narratives. Alors, la nouveauté pour nous modernes, c'est donc le passage d'un usage extérieur de la puissance à une intégration des moyens de contrainte, c'est-à-dire que nous sommes à nous-mêmes nos propres normes, nous sommes prescripteurs de règles, nous sommes prescripteurs de normes pour nous-mêmes, pour les autres. Et c'est cette dimension-là, c'est cette dimension d'assujettissement, cette dimension de nouvelle servitude volontaire que l'on s'impose, qui est également au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, et pas simplement celle d'hier, des pratiques narratives. Une dimension nouvelle, à mes yeux, il y avait un oiseau tête en bas. L'oiseau tête en bas, ça pourrait être... Non, il fait le poirier. Ça pourrait être une chauve-souris. Il n'est pas dans la norme. Mais il est difficile aujourd'hui, à mes yeux, de résister à la norme précisément des conduites induites par ce qu'on appelle, la société 2.0. Nous sommes tous accros à nos smartphones, on en redemande. On sait qu'on y va, on ne sait pas trop comment on y va. Et la posture éthique consiste aussi à interroger cette dimension-là. Il y a un autre élément qui me tient à cœur, qui est tout à fait au centre de l'actualité, sur la notion de responsabilité et la notion d'assujettissement, c'est le procès en cours de France Télécom, où en matière de management par objectif, qui confinait à la terreur, je cite les témoins, on est allé effectivement très loin. Et il y a une résistance à cela. Cet oiseau résiste, je ne sais quoi, peut-être il découvre les lois de la pesanteur. Il va plus loin que les autres. Les employés, les salariés de France Télécom sont allés à résister jusqu'au prix de leur vie. Et ça interroge un petit peu notre posture. Notre posture de coach, notre posture de praticien. Ne pas faire en sorte que nous, praticiens narratifs ou coach, nous soyons complices d'une certaine façon, où nous nous retrouvions du côté du pouvoir normatif. Et il s'agit bien de cela dans ce procès. Donc on a des exemples tous les jours, quotidiens, d'un usage possible des pratiques narratives en collectif, en tout cas. Alors, quel apport pour nos clients ? On les a égrenés au fil de ces petites vignettes que l'on vous a distribuées. Moi, je mesure au changement de nom. On ne parle plus de client, on parle de narrateur. Donc, il y a une reprise de possession de soi, narrateur de sa propre histoire, maître de ses choix, y compris de ses insuffisances, assumé, une complexité retrouvée, en route vers plus d'autonomie. Ce que disait Spinoza, la liberté au bout du chemin. Je pense que c'est ça aussi, les pratiques narratives. Voilà, on peut aller aussi du côté du praticien. Du côté du praticien, on fera un effort collectif pour essayer de trouver ce dont il s'agit. Moi, je pense que la question de l'éthique sur laquelle je m'appesantissais sur cette histoire terrible de France Télécom, histoire passée, mais enfin qu'il faut pouvoir expurger, donc dire, hein, on est en plein dans du narratif, là, dans ce procès-là. C'est l'éthique du praticien. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment fait-il ? Je crois qu'on est extraordinairement respectueux des paroles, des expressions et des mots de nos clients. Non pas qu'on prenne les mots pour les idées, mais justement, on ne les prend pas pour les idées, mais on les entend, on les respecte. Et avec ce matériau, on co-construit, comment dire, des identités nouvelles, et cela va plus loin. Et certains pourraient en témoigner, qui diraient d'une certaine façon leur joie à retrouver cette autonomie et leur liberté. Qui vont rajouter ?
Juste un petit mot sur le fait que ce qui me semble important de retenir, effectivement, c'est cette notion de complexité. Par rapport à une situation complexe à laquelle nous serons confrontés, il peut nous arriver d'avoir tendance parfois à simplifier. Une des approches fondamentales des pratiques narratives, c'est de complexifier ce qui est déjà complexe, enrichir ce qui, effectivement, peut paraître pauvre, aller développer des points de vue différents, explorer toutes sortes de paysages. Et d'ailleurs, le temps que nous prenons à explorer avec les clients, avec les narrateurs, le temps que nous prenons à écouter leurs mots, à les faire surgir, et fait partie importante du processus. Ce qui est d'ailleurs une exigence parfois un peu complexe à mettre en place aussi dans le domaine de l'accompagnement, disons, professionnel. Mais effectivement, c'est une richesse importante pour nous, et notamment aussi ce que je voudrais citer, c'est que les pratiques narratives, sans doute peut-être parce qu'elles sont un mélange intéressant entre effectivement le Down Under et l'Occident, ce sont des pratiques de créativité. Il y a une créativité forte au niveau de la latitude qui est offerte aux praticiens dans un cadre, comme le disait Henri, respectueux et éthique, d'apporter une vraie valeur ajoutée à son accompagnement. Et notamment, on ne peut pas vous en parler, mais il y a beaucoup de pratiques de l'écrit vis-à-vis du client, il y a beaucoup de pratiques de témoignage, etc.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet, si vous êtes déjà formé au coaching, ça permet d'aller dans des champs où en tout cas je vais parler de moi, hein, où je n'étais pas en capacité d'aller, sur des sujets beaucoup plus sensibles, sur des sujets autour de l'éthique, sur des sujets autour de la morale, sur des sujets aussi où la personne avait le sentiment d'un échec personnel très lié finalement à l'entreprise, ou sur des sujets, comme on disait aussi, transcontextuels. Voilà, donc ça donne, c'est vrai que c'est dans la partie perfectionnement, et c'est vrai que ça donne beaucoup de puissance et un enrichissement de sa palette d'intervention. Et en même temps, c'est très innovant, donc les entreprises ne sont pas très habituées à cette pratique.
Alors, cette formation dont on ne vous parle pas, mais dont on va vous parler, c'est donc une formation sur trois sessions qui a lieu effectivement d'octobre à décembre 2019. Nous avons dans nos formations des publics assez variés, c'est ce qui pour nous aussi fait la force et l'intérêt de ces formations. Vous avez une importante mixité à la fois d'origine, de métier, et ça fait aussi partie de cette complexité intéressante. Et aussi, on a parfois un certain nombre de managers qui cherchent directement à utiliser cette approche dans leur manière d'être, ce qui me semble intéressant par rapport à nos objectifs. Alors, pourquoi je rebondissais sur ce que vous disiez ? C'est que c'est une formation qui est active et très impliquante. On ne vient pas là prendre son thé, regarder en repartant, etc. C'est sûr que quand on y vient, on est dedans, et ce n'est pas une formation qui se cantonne à la vie professionnelle. Bien évidemment, on ne sépare pas nos vies. La vie professionnelle fait partie de la vie. Et clairement, c'est une formation extrêmement impliquante, et qui, cette implication permet ensuite de travailler dans la complexité avec les gens qu'on accompagne. Il y aura bien sûr des apports théoriques, des apports méthodologiques. Il y aura des exercices comme ceux que vous devez vivre, des exercices variés. Il y aura des outils, parce qu'on aime bien en général avoir quelques outils dans sa besace. Il y aura de l'entraînement, des mises en situation, du partage des représentations, du désaccord, de la confrontation, etc. Des fous rires, des larmes, oui, bien sûr. De l'écrit, du témoignage, etc. De la créativité. Et la créativité des participants est la bienvenue, bien sûr. Alors, les objectifs de cette formation, ça va bien sûr être de découvrir les idées et les pratiques clés de l'approche narrative. Ça va être aussi d'appréhender justement ces fameuses situations problématiques un peu complexes et de développer des manières d'y répondre. Il s'agira aussi de savoir conduire des conversations complexes, et on parle bien de conversation, c'est un terme auquel on tient, et de s'approprier les questionnements de référence. Vous en avez eu un tout petit goût là, mais le type de questionnement est important en pratique narrative, bien évidemment, et développer la pratique de l'écrit et du témoignage, qui sont pour nous des éléments clés de l'approche narrative. Et là, le praticien, si je puis dire, mouille sa chemise, il y a pas mal d'implications aussi à cet endroit-là, quant au témoignage que le praticien, voire d'autres personnes, peuvent faire quant à l'évolution, employant les gros mots, effectivement, d'identité de la personne qui est accompagnée. Donc le premier module, les dates exactes sont sur le site, mais donc le premier module, son objet, c'est de déconstruire les problèmes. Et quand je dis déconstruire les problèmes, c'est même parfois les dissoudre, comme on l'a évoqué. C'est parfois frustrant d'être praticien narratif. Parce qu'il arrive qu'effectivement, après un vrai travail de déconstruction, comme dirait Derrida, on n'a plus de problème. Et que la personne que l'on accompagne se demande parfois, mais pourquoi elle est venue nous voir ? Donc je dois reconnaître que c'est une expérience de la frustration, mais on s'habitue. Donc cette déconstruction de problèmes, ça passera par les idées clés qui sous-tendent les pratiques narratives. Vous avez compris qu'il y avait un peu de substrat à essayer de s'approprier. Et en plus, comme c'est un substrat qui évolue en permanence, parce que même si Michael White est mort, Foucault, Derrida aussi et autres, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Et il y a un travail important là-dessus, parce que les pratiques narratives continuent d'être pensées dans le monde. Ensuite, on verra un peu comment nos récits nous façonnent. On parlera de l'externalisation des problèmes, comme vous pouvez l'imaginer. On parlera de la posture du praticien, on la vivra. On évoquera, comme l'évoquait Henri, les diverses formes de pouvoir et comment s'en distancer. Et on fera du témoignage extérieur, on vivra du témoignage extérieur, on mangera du témoignage extérieur. La deuxième partie, donc, c'est construire des solutions, parce que c'est bien gentil de déconstruire, mais si vous n'avez pas dissous, je ne sais jamais comment ça se dit, il faut reconstruire. Donc là, il va falloir apprendre à organiser pour et avec son client un récit constructif. On va parler de façon assez approfondie de la conception narrative de l'identité, qui veut dire beaucoup de choses par rapport à l'accompagnement et qui permet sur cette base conceptuelle de développer des conversations narratives très aidantes. On va parler de ce qu'a évoqué Magali sur les états intentionnels, vous avez touché un petit peu tout à l'heure. On va parler d'un élément fondamental de l'approche narrative, c'est ce qu'on appelle la carte pour redevenir auteur. C'est-à-dire que notre objectif fondamental, c'est qu'effectivement les gens qu'on accompagne redeviennent auteurs de leur vie, auteurs de leur manière d'être. On va voir comment introduire des personnes de soutien. On va parler aussi de chemin éthique, de double écoute, etc. Et la troisième session de 3 jours, s'affirmer dans les relations de pouvoir. Là, on va toucher un certain nombre de sujets sensible, merci Henri. J'ai toujours des problèmes avec certains mots, c'est marrant. Donc on va parler de transformer la détresse émotionnelle en point d'appui. On va parler de concept d'absent mais implicite, vous verrez ce que ça peut vouloir dire. Réagir de manière constructive au sentiment d'échec. On va voir comment le pouvoir et la constitution de soi comme sujet moral sont des éléments fondamentaux de l'approche narrative. On va voir comment résister aux promesses fallacieuses et comment résister aux discours ou prendre des positions et des distances par rapport aux discours qui nous empêchent pour acquérir et adopter des discours qui nous permettent. Bon, comme je n'irai pas beaucoup plus loin dans le détail, je vous rassure, entre les diverses sessions, il y a un peu de temps. Donc ça permet d'une part de se reposer, ça permet de décanter et surtout nous sommes des supporters féroces de la pratique. Et donc, nous encourageons entre les sessions les gens à se retrouver, à pratiquer, à échanger, et ensuite de revenir à la session suivante et de poser toutes les questions qu'ils ont à poser ou même celles qu'ils n'ont pas à poser. Et nous sommes tout ouïes par rapport à ça. Et je voudrais juste revenir sur cette question de nombre, parce qu'on a choisi effectivement avec l'IFOD de limiter le nombre de personnes à une douzaine de personnes. C'est pour nous à la fois une possibilité, d'une part, parce qu'on a besoin de ce collectif, informer son collectif, c'est sûr, c'est indispensable, mais c'est encore une fois, c'est impliquant, c'est une formation un peu impliquant, je ne sais pas comment trouver d'autres mots, bref, machin, quoi. Et donc, il est actif, voilà, elle est vraiment. Et donc, on est obligé d'avoir une approche très personnalisée, et on est en vigilance permanente, on est en soutien permanent, on encadre beaucoup, et ce qui permet effectivement de faire pour nous du bon boulot. Ça fait partie de nos exigences de base. On s'est posé la question de plus de monde, mais on a décidé de non, parce qu'on tient à cette qualité, à ce niveau de finesse. Parce que vous verrez, c'est de la dentelle, c'est de la finesse. Et voilà. Et il faut garder à la fois de la profondeur et de la légèreté.